Radio de la Paix, il est 12h.
Le journal de midi.
Marthe Cacou.
Nous sommes le mardi 23 avril 2019, tout de suite les faits majeurs. La vie a repris son cours normal après le week-end pascal, marqué d'une part par la célébration de la résurrection de Jésus-Christ et d'autre part par la Pâquinois en Gamankro. Dans la sous-préfecture de Dibri et Asrikro, les populations ont vécu dans la ferveur l'intronisation du chef du village après le décès de son prédécesseur il y a 22 ans. L'axe Bondoukou frontière Ghana pourrait être bitumé dans les mois à venir, c'est ce qui ressort de la mission de reconnaissance qu'effectue en ce moment une délégation du projet de transport urbain d'Abidjan lié à l'Ajeroute. Actualité au Nigeria, un policier fonce sur une procession de Pâques, 10 personnes tuées et 30 blessées. Rapport 2019 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire gagne 11 places. Pour en parler, le responsable Ouest Afrique de RSF, Arnaud Frogi, est l'invité de la rédaction. Bonjour à tous. La vie reprend son cours et les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ce mardi 23 avril marque la fin de la célébration de la fête de Pâques, au cours de laquelle les chrétiens catholiques ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Pendant ce temps, à Ngamankro, situé dans la sous-préfecture de Dibri, Asrikro, la population vécut dans la ferveur l'intronisation du chef du village par le préfet de Sakassou, et cela après 22 ans suite au décès du précédent. On fait le point avec vous, Kader Diaby.
Arrêté numéro 5, préfecture Sakassou/Kabiné du 8 mai 2018, portant nomination de M. Kwadio Kwame Basile en qualité de chef de village d'Angamako, sous-préfecture de Dibri Asrikro.
Cet extrait de l'arrêté de nomination lu par le sous-préfet de Dibri Asrikro, Alain Dago, marque la prise officielle de fonction de chef de village d'Angamako de Kwadio Kwame Basile, comptable à la retraite. Préfet de Sakassou, Koulibaly Gomon, a prodigué ses conseils.
Quand on est chef, on est le chef de tout le monde. Donc à partir de cet instant, vous êtes le chef de tous les habitants d'Angamako. Le chef doit être juste, le chef doit être impartial, le chef doit œuvrer pour le développement de son village. Ce sont là les quelques tâches qui vous attendent, bien sûr en liaison avec l'administration. Et à ce titre, mesdames, messieurs, je voudrais vous demander de soutenir le chef.
Cela fait 22 ans que le village d'Angamako n'avait plus de chef suite au décès du précédent. L'on comprend donc la joie de ces villageois.
Clément. En tout cas, on est très content de notre chef. On veut un chef dynamique. Donc, on veut que le chef puisse nous appuyer pour que demain, on puisse avoir un village dynamique, avoir un centre de santé et puis un centre culturel pour les jeunes.
Kwadjaou Odette, c'est un sentiment de joie qui anime tout le village parce que depuis un certain nombre d'années, on n'avait pas de chef. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce.
Cette cérémonie d'intronisation de chef de village a ajouté un plus à la célébration de Pâquinou à Angamankro. Kader Diaby de Sakassou, Radio de la Paix.
Dans la sous-préfecture de Ravière, située dans le département de Didier-Vie, au centre de la Côte d'Ivoire, la population de cette zone ont, durant le week-end écoulé, réceptionné deux infrastructures majeures. Il s'agit d'un centre polyvalent et d'une unité de transformation du manioc. Témoin pour la Radio de la Paix, Radi Razak Wilfried.
Première infrastructure réceptionnée, le centre polyvalent, dont la direction générale des hydrocarbures, Kwaku Dongui, l'un des sous-directeurs, en a indiqué les caractéristiques.
Un bâtiment qui comporte 300 places à l'intérieur et 200 places assises à l'extérieur. Une cabine technique, salle multimédia, qui peut comporter jusqu'à une trentaine d'ordinateurs.
Pour Kwadio Séraphin, le président de la Mutuelle du Développement de Ravière, c'est un autre pas dans la modernité.
On pourra, comme à Abidjan ou dans les autres grandes villes du pays, apprendre ici les outils informatiques, à surfer, à naviguer. Et vu la capacité, on aura l'occasion, lors de nos rencontres, de nous réunir en grand nombre.
L'autre ouvrage, d'un montant de 110 millions de francs CFA, est une action de la Loterie Nationale. Kwasi Roger, de cette structure, a placé ce geste dans sa mission sociale.
La mission sociale nous engage à investir dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. La direction générale et le personnel de Ménage au Canifort pour être à la hauteur des attentes sociales dans la droite ligne de la stratégie gouvernementale en la matière.
Au nom des bénéficiaires, Yao Afoué Monique, la présidente des femmes de Raviar, a traduit sa reconnaissance non sans plaider.
Le manioc, ça ne paye pas à bon prix. Moi, j'ai dit, mais c'est l'usine. Ils n'ont qu'à nous chercher des clients, des bons clients. On peut faire la quelque pour envoyer au pays étranger.
Signalons qu'à cette occasion, le collège moderne de Raviar a été baptisé collège moderne Aoussou Jeannot du nom du président du Sénat de Côte d'Ivoire, cadre de la localité. De retour de Raviar, Didier Vie, Radi Razak Wilfried, la radio de la paix.
On quitte le centre de la Côte d'Ivoire pour le sud, précisément pour Bengerville où est logé le pôle scientifique et de l'innovation de l'université. Félix Houphouët-Boigny, ce centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable a été inauguré mercredi en présence de la directrice générale de la Banque mondiale et par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous écoutons Mabri Touakeus Albert Albadala.
Ce centre d'excellence qui est sous-régional et qui est soutenu par la Banque mondiale, consacre ses efforts à toutes les études dans le domaine donc du changement climatique, du développement durable, de l'agriculture pérenne, et nous permet donc de trouver des solutions innovantes qui s'appliquent donc à notre secteur productif, que ce soit le monde de l'agriculture, de la météorologie, des transports, et la visite avec... La manager générale de la Banque mondiale nous a permis justement de voir deux présentations, une qui était sur les biopesticides avec une jeune Ivoirienne et l'autre qui était donc sur la gestion des polluants issus des transports avec une jeune béninoise, deux jeunes dames qui font des thèses sur donc ces sujets. Donc c'est ça la vocation du centre. C'est un centre de recherche-développement, recherche appliquée donc au développement, qui va être utile à l'État, aux populations, mais aussi au secteur privé. Et j'ai été très heureux en tout cas de l'inauguration de ce centre.
Quatre jours avant, le ministre Mabri Touakeus Albert Abdalla de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était à l'université Jean Lourignon Guédé de Daloa. Vendredi dernier, lors d'une cérémonie dominée par une conférence publique, le professeur Tidou Abibasanogo, présidente de cette université, a exhorté les étudiants à un changement de mentalité. Suivons le compte-rendu de Jean-Claude Mabia.
La présidente de l'université Jean Lourignon Guédé de Daloa, qui a animé une conférence publique autour du thème « L'importance du changement de mentalité », se prononce ici sur le choix de ce thème. Professeur Tidou Abibasanogo.
Pour pouvoir changer une société, il faut que le gouvernant ait une forte mentalité. C'est le leader, le mentor. Et pour cela, il faut aller puiser dans les bonnes valeurs pour pouvoir diriger. Ensuite, aux collaborateurs, c'est de pouvoir être dans la même vision que la gouvernance, aux étudiants de changer de mentalité également. En changeant de mentalité, ces étudiants pourront apprendre à vivre ensemble, à s'accepter les uns les autres afin qu'il y ait la quiétude au sein de nos campus.
La visite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Dr Albert Mabri Touakeus le lundi 15 avril dernier dans la dite université a été pour elle salutaire.
Un sentiment de fierté et beaucoup d'espoir. Espoir surtout de voir le ministre de tutelle venir toucher du doigt nos problèmes qui se résument en quelques faits, notamment l'insuffisance des infrastructures. Je pense que cette insuffisance des infrastructures est en grande partie responsable des retards académiques que l'université Jean Lourignon Guédé accuse. Nous comptons sur le gouvernement pour pouvoir instaurer une gouvernance numérique.
Ayant une population d'enseignants et étudiants assez jeunes, l'université Jean Lourignon Guédé de Daloa compte aisément expérimenter le numérique. A-t-elle conclu?
Programme régional de facilitation du transit routier de la commission de l'UEMOA de la CDAO. Un atelier a été organisé à cet effet à Korogo. Les travaux ont porté sur le thème suivant, validation des rapports d'études d'avant-projet sommaire et d'impact environnemental et social des postes de contrôle juxtaposés. Les échos avec Marcel Bonnet.
À travers ce projet de poste de contrôle juxtaposé, il s'agit de passer à la phase pratique et concrète de l'intégration sous-régionale. Mahama Sanusi Amadou, directeur des infrastructures à la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine, nous en dit un peu plus.
Les postes de contrôle juxtaposés sont des infrastructures très complexes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et de parties prenantes. Avant le PCJ, les administrations frontalières déjà avaient leurs propres bâtiments, avaient leurs propres équipements. Maintenant, il s'agit de les regrouper pour que les formalités soient faites en même temps. Donc, permettre d'atteindre le but recherché, c'est-à-dire améliorer la facilitation du transport et du transit entre les États.
Une facilitation assortie d'un impact développé par le colonel Kamagaté Ibrahima, directeur régional des douanes à Korogo.
En un seul lieu, nous pourrons faire des vérifications concomitantes. Cela constituerait un gain de temps pour les opérateurs économiques, pour l'administration elle-même et surtout, cela pourrait contribuer à lutter efficacement contre la fraude. Et qui dit lutter contre la fraude augmente indirectement les recettes de l'État à la frontière.
Ce qui n'exclut pas un droit de regard, nous explique Koulibaly Adama Nibizana, président de l'Observatoire de la fluidité des transports.
On est d'accord qu'il existe des PCJ entre les différents États, mais il y aura quand même un contrôle. Ce ne sera pas vraiment pour embêter les populations d'un côté ou de l'autre. Il y aura des observations pour recaler certaines choses.
Notons que ce poste de contrôle juxtaposé concerne les frontières Côte d'Ivoire-Mali et Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Marcel Boni Korogo, la radio de la paix.
Longue de 11 km, la route Bandoukou, frontière Ghana, via le village de Soko, pourrait être bitumée dans les mois à venir. C'est du moins ce qui ressort de la mission de reconnaissance qu'effectue en ce moment une délégation du projet de transport urbain d'Abidjan, structure liée à la Géroute, l'agence de gestion des routes. Cette mission, qui a séjourné récemment à Bandoukou, a multiplié les rencontres avec les autorités locales, puis les populations de Soko et de la ville, en vue de la mobilisation de tous autour de ce projet de Bandoukou. Voici la correspondance d'Emiliao.
Ouattara Yineferé Francis, ingénieur des travaux publics chargé de la réalisation des infrastructures routières sur le projet PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan, donne une idée des travaux à réaliser à Bandoukou dans le cadre de ce projet.
Les travaux vont consister en la réalisation d'une route définitive, notamment la voie principale qui relie l'État de Côte d'Ivoire au Ghana à partir de Bandoukou. C'est une voie de deux fois une voie bitumée qui fait 11 km, qui partira donc de Bandoukou en passant par Soko jusqu'à la frontière du Ghana avec de l'éclairage public et une signalisation routière garantie et le drainage nécessaire. Le coût total de ce projet, y compris les activités connexes, est estimé à 19 milliards, financé par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement et également par le FAD, Fonds africain de développement.
Diverses activités seraient liées à ce projet, indique également Amon Koffi, chef d'unité aménagement connexe et appui institutionnel au sein du PTUA.
Le projet est à deux phases. Il y a l'autoroute de Bandoukou-Soko avec des aménagements connexes et projets intégrés. C'est une douzaine d'activités que nous réalisons en faveur des populations de Soko et des jeunes de Bandoukou. Nous allons organiser et équiper les femmes et les jeunes de Bandoukou à la transformation du manioc.
À Bandoukou, depuis le lundi 15 avril dernier, la délégation du PTUA multiplie les rencontres aussi bien à Soko qu'à Bandoukou en vue de la mobilisation de tous autour de ce projet. Émile Yao, Bandoukou, Radio de la Paix.
Dialogue national sur le financement de la santé. La CMU a le potentiel d'améliorer grandement l'accès aux soins de santé. C'est ce qu'a indiqué jeudi dernier à Abidjan la directrice régionale de l'OMS Afrique. Elle pense que cette réforme majeure va de pair avec le renforcement du système de la santé publique, non seulement dans son volet investissement, mais aussi en ce qui concerne ses piliers. On écoute donc les précisions de Dr Rebecca Mouetti.
Les défis sont certes importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Surtout, ils sont en effet des opportunités pour le développement durable, pour le bien-être des populations et même pour consolider une nation. Aussi, l'OMS vous félicite pour les engagements que vous prenez, pour les réformes entreprises et pour celles en cours. Notamment, nous sommes convaincus avec vous que la CMU a le potentiel d'améliorer grandement l'accès aux soins. Cette réforme majeure ira adéquatement de pair avec le renforcement du système de la santé publique, non seulement dans son volet investissement, mais aussi sur l'ensemble de ses piliers. C'est grâce au leadership dont vous avez fait preuve en convaincant la présente réunion que l'OMS peut témoigner sa solidarité avec votre gouvernement. L'OMS, par ma voix, vous fait donc part aujourd'hui, plus que jamais, de notre engagement à accompagner le pays dans l'ambitieux programme visant à accroître et à rendre plus efficace la dépense publique de santé pour atteindre la couverture santé universelle en 2030.
Docteur Rebecca Mouetti, directrice régionale Afrique de l'OMS. On met le cap sur le Nigeria. 10 personnes ont été tuées et 30 blessées lorsqu'un policier a foncé en voiture sur des enfants pendant une procession de Pâques dimanche soir à Gombe, dans le nord-est du pays, avant d'être à son tour tué par des fidèles en colère. Selon des témoins, la police, c'est ce qu'a rapporté hier Meru Maluma, la porte-parole de la police locale citée par l'agence France Presse. Et puis en Afrique du Sud, au moins 5 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui à la suite de pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain à Durban sur la côte est du pays. C'est ce qu'ont indiqué les services de secours relayés par l'agence France Presse. Sport Football Ligue 1, la société Omnisport de l'armée est championne de Côte d'Ivoire pour la première fois en battant la FAD de Diekanou 2-1 au stade Robert Champrou de Marcory. La SOA qui succède à la SEC Mimosa représentera avec le FC San Pedro vice-champion la Côte d'Ivoire en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. On en arrive à l'invité de la rédaction qui est le responsable Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, Arnaud Froger, évoquera avec Gapienan Désiré Ouattara le rapport 2019, rapport qui stipule que la Côte d'Ivoire a enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse. Cependant, des défis restent à relever.
Monsieur Arnaud Froger, bonjour.
Bonjour.
Dans le dernier rapport qui vient d'être publié par Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire a fait un bond significatif en avant avec 11 places. Quel commentaire ?
La Côte d'Ivoire a effectivement gagné 11 places. C'est la traduction d'abord d'une situation politique qui est un petit peu plus apaisée et qui a donc nécessairement moins de conséquences sur la liberté de la presse et sur l'exercice de la profession de journaliste en Côte d'Ivoire. C'est aussi la traduction qu'au cours de l'année 2018, nous n'avons pas répertorié à RSF de journalistes arrêtés arbitrairement en Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas l'année précédente, en 2017, où plusieurs journalistes avaient été arrêtés en marge des mutineries. On leur avait notamment demandé de révéler leurs sources, ce qui expliquait l'absence de progrès de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, finalement, à la faveur d'un contexte politique qui est un petit peu plus apaisé, avec des arrestations de journalistes qui ont pris fin, en tout cas pour l'année 2018, a donc progressé de 11 places au classement que nous venons de publier.
Toutefois, RSF reste quelque peu critique quant à certains points, dont celui de la libéralisation promise du secteur de l'audiovisuel, qui, selon votre rapport, se fait toujours attendre.
Tout à fait. Le fait d'avoir progressé de 11 places ne signifie en aucun cas qu'il n'y a plus de challenge pour la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a plus de défi. Il y en a deux d'importance qui nous semblent à souligner. D'abord, comme vous l'évoquiez, effectivement, le fait de consacrer enfin l'ouverture du marché audiovisuel et de permettre à de nouveaux opérateurs de produire de l'information à la télévision en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait anachronique qu'en 2019, la seule télé nationale qui soit implantée en Côte d'Ivoire, ce soit la radio-télévision publique d'État, la RTI. Il faut qu'il y ait des opérateurs privés de manière à ce qu'il y ait une pluralité des opinions qui puissent s'exprimer. D'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour préciser que pour l'instant, les appels d'offres qui ont été passés ont été remportés par des acteurs quasi exclusivement très proches du pouvoir en place. Mais néanmoins, la concrétisation du pluralisme médiatique et de l'ouverture du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire est une nécessité et on appelle évidemment les autorités ivoiriennes à accélérer ce processus. C'est nécessaire pour le débat public en Côte d'Ivoire. Le deuxième enjeu très important pour les autorités ivoiriennes, c'est de faire avancer l'enquête sur la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, puisque cette enquête est quasiment à l'arrêt, au point mort, et ce, malgré les promesses répétées des autorités ivoiriennes à plusieurs reprises au cours de ces dernières années.
Avec le bond en avant de 11 places, la question de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire annonce-t-elle de réels espoirs pour une presse plus libre et plus responsable dans un climat sociopolitique encore quelque peu tendu dans ce pays qui sort des crises?
Ce sera aux autorités de faire en sorte que ce bond en avant puisse être confirmé et puisse se concrétiser par nouvelles avancées pour les journalistes et les médias en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs chantiers à mener. Il y a relancer, comme je le disais, l'enquête sur la disparition du journaliste André Kiefer, consacrer l'ouverture du marché de l'audiovisuel. On pourrait penser aussi à réviser certaines dispositions du nouveau code de la communication qui a été adopté et qui contient des dispositions qui sont encore un peu liberticides, comme le maintien d'un délit d'offense au chef de l'État avec des sanctions qui sont très lourdes. On pourrait aussi penser à un travail de sensibilisation qui doit être poursuivi vis-à-vis des forces de l'ordre, puisque si RSF n'a pas enregistré de journalistes arrêtés au cours de l'année 2018 en Côte d'Ivoire, il y a tout de même eu des journalistes agressés par les forces de l'ordre en marge de manifestations. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été entamé, mais qu'il faut poursuivre en Côte d'Ivoire. Et puis, je terminerai par dire que la liberté de la presse en Côte d'Ivoire reste fragile malgré tout. Elle reste très fortement dépendante du contexte socio-politique que vous évoquiez. Il n'est pas exclu, effectivement, que si de nouvelles tensions devaient survenir, eh bien les journalistes puissent en faire les frais, d'où la nécessité d'avancer sur les chantiers que j'ai déjà évoqués précédemment pour consolider les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de liberté de la presse.
Arnaud Froger, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes...
Je suis le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
À l'invité du jour se prêtait aux questions de Gapienan Désiré Ouattara. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. La vie a repris son cours normal après le week-end pascal marqué d'une part par la célébration de la résurrection de Jésus-Christ et d'autre part par la Pâquinou, l'aspect culturel de Pâques à Angamakro dans la sous-préfecture de Dibri-Asrikro. La population a vécu dans la ferveur l'intronisation du chef du village, Kwadio Kwame Basile, après le décès de son prédécesseur il y a 22 ans. L'axe Bandoukou frontière Ghana pourrait être bitumé dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la mission de reconnaissance qu'effectue en ce moment une délégation du projet de transport urbain d'Abidjan lié à la Giroute. Actualité au Nigeria, un policier fonce sur une procession de Pâques, 10 personnes tuées, 30 blessées.